Bonjour Pierre Aski.
Bonjour Jérôme.
Vous revenez sur l'analyse des différentes crises internationales.
À l'époque de la guerre froide, la première entre Américains et Soviétiques, tout événement était vu à travers le prisme de cette rivalité, au point d'en oublier les spécificités locales et historiques. Dans la grande série télévisée « La guerre du Vietnam », diffusée en 2017 sur Arte, un ancien responsable américain reconnaissait que la principale erreur de son pays avait été de ne voir qu'un enjeu de guerre froide, sans comprendre pourquoi les Vietnamiens se battaient. Le monde est menacé aujourd'hui, alors que s'installe un climat international similaire, de commettre la même erreur, de ne regarder les conflits qu'en termes de rivalité de puissance et d'en oublier les racines bien plus profondes. Certes, les rivalités de puissance existent aujourd'hui plus qu'à aucun autre moment depuis la chute du mur de Berlin, mais elles n'expliquent pas tout et surtout, cette déformation du regard peut amener à faire les mauvais diagnostics. Le retrait français du Mali annoncé hier en donne un bon exemple. La France recule, la Russie avance. Cette grille de lecture a le mérite de la simplicité et n'est évidemment pas totalement fausse avec l'arrivée des mercenaires de Wagner et la désinformation pro-russe, mais elle est insuffisante.
Que voulez-vous dire ?
La situation au Mali ne se résume pas à la rivalité franco-russe, pas plus qu'elle ne se réduit à la seule offensive des groupes djihadistes à l'œuvre depuis plus d'une décennie. Une crise comme celle-ci est l'accumulation de couches de sédimentation multiples qui mêlent les conflits traditionnels entre éleveurs et agriculteurs, l'héritage colonial, l'échec des formes de gouvernance qui se sont succédées depuis l'indépendance en 1960, et oui, bien sûr, des influences étrangères qui viennent profiter des contradictions locales pour marquer des points dans un jeu global. L'an dernier, alors que Kaboul tombait aux mains des talibans, un chercheur français, Adam Basco, publiait un livre éclairant, « La guerre par le droit », dans lequel il montrait comment le système de justice des combattants islamistes avait précédé leur victoire militaire dans la majeure partie du pays. Dans une partie du Sahel, il en va de même. L'absence des États, leur dysfonctionnement ou leur corruption font le jeu des structures parallèles que mettent en place ceux qui arrivent avec des règles brutales, mais qui rétablissent un ordre ancien.
Alors, quelle conclusion en tirez-vous ?
D'abord, Jérôme, une mise en garde contre les grilles de lecture trop binaires. L'échec malien offre une bonne occasion, au moment où l'Union européenne renouvelle son partenariat avec l'Afrique, de repenser un mode d'intervention trop marqué par la période coloniale et post-coloniale. Mais surtout, ça demande de comprendre les dynamiques à l'œuvre au sein des sociétés sahéliennes, dans l'est de l'Ukraine ou au sein de la complexité du peuplement taïwanais, pour éviter les pièges de la seule lecture de l'affrontement de puissance. Ça n'est évidemment pas facile, surtout quand le principal outil à disposition est militaire. Vous connaissez cette citation du psychologue américain Abraham Maslow, « Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous tendez à voir tout problème comme un clou. » Ça s'applique bien à la géopolitique.
Merci Pierre Aski. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Elisabeth Borne. France Inter.